on connaît la chanson.
1, 2, 3, 4.
Chaque samedi à midi sur JetFM 91.2, Trafic d'air vous propose de vivre en prise directe avec la chanson d'aujourd'hui.
Semaine après semaine, au fil de chroniques, interviews et tribunes critiques, Trafic d'air va à la découverte de la chanson d'aujourd'hui.
Partagez vos coups de cœur et vos coups de gueule. Jouez, chantez. Et retrouvez-nous chaque samedi à midi sur JetFM 91.2.
Et voilà la saison de Trafic d'air qui reprend. J'ai l'intention de modifier les jingles, mais j'ai pas encore pris le temps de le faire. Donc c'est avec le vieil habillage que vous découvrirez cette première émission plutôt. J'allais dire chanson, mais non, c'est pas une chanson, c'est une interview de l'auteur, compositeur et interprète Éric Guilleton. Éric Guilleton qui a rencontré Robert, notre ami Robert, qu'on n'avait pas entendu beaucoup ces derniers temps en interview, et qui là a pris l'initiative de cette conversation téléphonique avec Éric Guilleton pour une bonne raison qu'il va nous donner tout de suite. Allez, je vous laisse découvrir.
Pourquoi cette interview? C'est parce que le vendredi 3 octobre, tu viens à Nantes faire un concert organisé par l'association Une Autre Scène. Et on a pensé, avec le président de cette Une Autre Scène, à savoir Roland Atlani, que ce serait bien qu'on puisse réaliser cette petite rencontre téléphonique, puisque tu es sur Paris et nous sommes nantais. Alors, ce que j'aimerais, c'est mieux te connaître déjà. Donc, est-ce qu'on peut parler un peu de ton enfance et de quels souvenirs, quels sont les souvenirs qui ont façonné ta vision du monde et puis ton art potentiellement, enfin, vers quoi ça t'a dirigé et comment?
Bon, alors, j'ai grandi dans les années 60 à Sarcelles. La chanson, en fait, elle me parvenait par la radio, c'est-à-dire toutes les chansons de l'époque des années 60, ce qu'on a appelé les années yéyé. Et puis, très rapidement, j'ai eu envie de jouer de la guitare. J'avais, je sais pas, 8 ans. À peu près, ouais. Et puis, par chance, on m'a offert une guitare. Et puis, je me suis mis à jouer sur une corde, puis sur deux cordes, des mélodies que j'entendais de chansons, à la mode de l'époque. Puis après, d'autres... je me rappelle d'un truc, La pluie d'hiver sur les carreaux, qui était une chanson de Sacha Distel que j'ai joué sur deux cordes. Et puis après, ce que j'aimais bien faire, c'était jouer dans la cage d'escalier, parce que ça faisait comme une espèce de réverb. Je savais pas trop ce que c'était, la réverb, etc. Mais j'aimais bien le son. Et au-dessus, moi j'habitais au troisième et au quatrième. Il y avait un mec qui s'appelait, je sais plus s'il est toujours de ce monde, Dominique, il était plus âgé que moi. Et un jour, j'étais en train de jouer dans la cage d'escalier, sur mon palier. Et puis il a ouvert la porte, il m'a dit, bon, tu vas arrêter de nous faire chier avec deux, trois notes, je vais te montrer un accord. Et là, il m'a montré l'accord de la mineur. C'est le premier accord que j'ai appris à la guitare, et c'est mon voisin. Et voilà. Et après, il m'a appris le do, le ré, machin, et il m'a appris, il m'a donné les accords du pénitencier qui se jouait à l'époque, et j'aimais beaucoup cette chanson. Et voilà comment mon histoire avec la guitare et la chanson a débuté, quoi. C'est aussi simple que ça.
Est-ce que les premiers artistes, tu as cité Sacha Distel,
oui.
Est-ce qu'il y a d'autres artistes français ou étrangers qui t'ont plus marqué?
Alors oui, parce que c'est ce qui me, comment dire, ce qui était en fait, je reproduisais d'oreille des choses qui étaient le plus simples pour moi. Donc il se trouve que cette mélodie était rentrée dans ma dans mes oreilles, mais j'ai toujours aimé la chanson et ce qui est et en fait la chanson qui m'a vraiment le plus marqué, c'était 68, donc j'avais 10 ans. C'est bizarrement à contre-courant du courant yéyé, etc. C'est La Bicyclette chantée par Yves Montand. Et cette chanson, elle est vraiment importante à deux titres. La première, c'est que j'adorais faire du vélo et que dans la cour à Sarcelles, je faisais du vélo et je chantais à bicyclette, mais vraiment à tue-tête. Parce que j'adorais cette image du mec qui fait du vélo, qui est amoureux, etc., etc. Et bon, il se trouve que ma mère s'appelle Paulette, enfin elle s'appelait Paulette. Voilà, donc c'est assez marrant parce que, enfin, je ne sais pas, peut-être que je suis attardé et que j'étais pas très fufute à l'époque, mais. C'est aussi grâce à cette chanson que je me suis rendu compte que ma mère avait eu une vie amoureuse avant d'avoir des enfants. Et tout, mais c'est assez rigolo. Je vais raconter ça à Pierre plus tard.
Oui, parce que
Et ça l'avait fait bien marrer. Il m'avait dit, c'est le plus beau compliment qu'on m'ait fait sur cette chanson. Ça serait bien de l'avoir par Pierre Barou. Puisque tout le monde a la bicyclette dans la tête par Montand, qui est un remarquable interprète. Hein. Je veux dire, c'est le rôle des interprètes est fondamental dans la chanson française. Aujourd'hui, c'est la mode, c'est d'être auteur, compositeur, interprète. Mais je veux dire, des gens comme Montand, Reggiani, Piaf, naturellement.
bien sûr.
Je veux dire, on magnifiait la chanson et ce ne sont pas les gens qui ont écrit ni les paroles ni la musique. Mais on est en droit de se poser la question quand même, de se dire quel aurait été le rayonnement de ces chansons si elles n'avaient pas été interprétées par des gens aussi talentueux. Voilà, bon, ça c'est une question, chacun. Peut-être y répondra ou pas, mais j'insiste vraiment sur le rôle de l'interprète.
De bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Benjamin, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser des ailes. À bicyclette sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur. À bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants. À bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons. Nos silhouettes, on revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant, de n'être pas seul un instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, la bicyclette. On se disait c'est pour demain, je crois que j'oserai demain, quand on ira sur les chemins à bicyclette.
Donc en fait, on va revenir à ta jeunesse. Donc les premiers artistes qui t'ont marqué, si j'ai bien compris, c'est Montand déjà, en tant qu'artiste.
Alors, mais il y a eu Johnny avant. Hein.
Ah oui, d'accord.
Il y a eu Johnny. Ah ouais, Johnny, j'étais fan de Johnny. Avant de découvrir la bicyclette, j'étais fan de Johnny et même encore après. Je trouve que c'est un grand. Alors voilà.
Un bon interprète.
On parle des interprètes. Voilà, voilà. Je l'avais oublié, Johnny.
Mais
ouais,
bon.
Ouais, non. Et là, moi, j'ai adoré Johnny. J'ai adoré. Ouais. Ouais. Je pense que c'est le mec qui m'a donné envie de chanter.
D'accord.
Ouais. Ouais, ouais. Je parle pas des chansons en elles-mêmes, mais je parle du mec, quoi.
Ok.
De la voix et de l'interprète.
Donc, ouais. Alors, tu rapidement, très jeune, tu as aimé la chanson, ça c'est sûr.
Ouais.
Alors, comment tu es venu à commencer, on va dire, à écrire ou même à devenir un guitariste parce que tu as commencé avec trois accords comme la majorité des guitaristes. Enfin, je parle de guitaristes de feu de camp, j'en fais partie. T'as appris à jouer de la guitare plus tard, t'as suivi...
Non, j'ai pas suivi de cours, je suis complètement autodidacte, j'ai appris à l'oreille, et puis après avec les copains qui jouaient de la guitare, on échangeait les accords, les chansons, et puis j'ai appris comme ça en cassant mes doigts pour faire les barrés avec les chansons de Graham Allwright qui est un mec que j'apprécie énormément toujours aujourd'hui. C'était une interaction, une émulation entre et de partage, c'était des moments de partage. On se retrouvait sous les porches toujours à Sarcelles. Et puis on échangeait les accords, etc. Quoi, comme ça se fait dans les, comment dire, naturellement, j'ai envie de dire.
Ouais.
Ça s'est fait naturellement, voilà.
Et
je n'ai pas pris de cours. J'ai pas été au conservatoire parce que je ne savais même pas à l'époque que ça existait.
Est-ce que à un moment aussi, tu t'es dit, j'arrive à jouer les chansons des autres, est-ce que je pourrais pas moi en faire?
Ouais, alors ça c'est bizarre. Je sais, c'est né d'une émotion. La première tentative, je devais avoir 15 ans, 14-15 ans, ouais. Je sais pas quoi. C'était lors d'un voyage en train et il m'est venu deux phrases. Et puis j'ai mis deux accords et je me suis dit tiens c'est possible. Mais c'est arrivé par hasard. J'ai pas eu envie de dire tiens je vais écrire moi des chansons. Là aussi c'est venu de manière comment dire ça. C'est
naturel.
Ouais, enfin ça s'inscrit dans le fait de dérouler une ouais. pelote de laine quoi. On sait pas où. Je savais pas où ça me mènerait. Je l'ai fait, mais comme ça, par hasard.
Ouais.
Il y a une émotion au départ, ça c'est sûr. qui est l'émotion du voyage.
Et ensuite, ton voilà. processus créatif, il a évolué comment au fil du temps?
Toujours par rapport aux rencontres où j'ai confronté des gens, j'ai essayé. Très vite, j'ai été plutôt pas mauvais guitariste. Alors mes premières chansons, c'était des jolis morceaux de guitare, mais ça fait pas une chanson, quoi. J'avais des textes maladroits, je travaillais pas tellement la métrique. La rime vaguement, mais je n'avais pas conscience que la contrainte pouvait être un moteur pour l'imagination. J'avais la naïveté, la pensée naïve et sincère de dire que j'écrivais des chansons pour être libre, que donc il fallait être libre et pas se faire chier avec aucune règle.
Vous écoutez bien en ce moment Trafic d'air sur Jet FM 91.2.
Tu y es venu comment, aux règles et à la contrainte?
Toujours par des rencontres. Quand j'ai commencé à jouer avec des musiciens, par exemple, j'avais le défaut de m'accompagner à la guitare. Sans me soucier des tempi, forcément, et de la mesure, donc forcément, j'avais des tempos, des tempi qui étaient moldaves, comme on dit. Et puis surtout, comme j'avais pas le nombre de pieds, réguliers, bon, je pouvais me démerder, faire une escroquerie en démarrant sur une levée, par exemple, quand j'étais en octo, en verre de 8 pieds. Si j'avais un verre de 7 pieds, je démarrais sur une levée.
D'accord.
À un moment, en travaillant avec des musiciens, les gars m'ont dit, ouais, mais attends, là, c'est pas mal ton truc, mais tu vois, t'es pas en rythme, tu ne joues pas en rythme. Et ils avaient raison. Mais je jouais pas en rythme, non pas parce que je n'avais pas conscience du rythme, mais tout simplement parce que, comme j'écrivais ce qui se passait par la tête, j'avais pas une métrique régulière. Et c'est grâce à eux que j'ai commencé à rectifier un petit peu les choses. Et puis après, ça s'est précisé d'année en année lorsque, au hasard des rencontres. Et celui qui m'a vraiment fait prendre conscience, mais déjà j'avais quand même pas mal avancé dans ma vie, c'est Pierre Barou. Pierre m'a dit un jour, il m'a dit, tu sais, la contrainte sollicite l'imagination. Et force est de constater qu'il avait raison.
Ouais. En fait, voilà. Tu as commencé, on va dire, cet exercice de contrainte, donc d'atelier d'écriture formel, grâce à Pierre Barou.
Non, c'est Pierre qui a enfoncé le clou. Comme je te dis, j'ai déroulé le fil, et puis au fur et à mesure, j'ai ajusté comme un menuisier. Je veux dire, j'ai raboté, j'ai été au, comment dire, au feeling, comme on dit, mais voilà, je me suis dit, tiens, si j'allais dans ce sens-là, puis dans un autre, c'est l'image du rabot, quoi, en fait, c'est l'écriture au rabot, et puis avec la gomme.
C'est marrant parce que quand tu disais ça, j'ai sous les yeux un document en fait que j'ai piqué sur Internet où je te lis. Éric Guiton aurait pu être un artisan menuisier de la chanson, mais c'est un véritable ébéniste auquel nous avons affaire.
Je ne sais pas qui a écrit ça, mais c'est ça. Oui. En fait, si tu veux, voilà, la filiation, elle est là. Réellement, moi je viens d'une famille d'artisans. Mon grand-père était menuisier, mon père était cordonnier, même si après ils ont eu des évolutions de carrière concernant mon père. Mais au départ, c'est l'artisanat. Ma grand-mère était fleuriste, ma mère était étalagiste. Y avait cette filiation d'artisanat. Et sans le savoir, moi j'ai pris un autre chemin, mais qui est effectivement ce chemin de l'artisanat,
ouais.
mais comme une filiation, quoi, tu vois.
Et donc en fait, bon, tu avais 15 ans ou plus jeune, tu chantais à la bicyclette. Johnny,
oui.
Johnny, t'as profondément marqué. Quand tu arrives,
quand j'étais enfant, oui.
Ouais, quand tu arrives jeune, une vingtaine d'années. Est-ce que à ce moment-là, c'est toujours les mêmes qui t'a
Brassens,
ouais.
J'avais 14 ans, et Neil Young, la même année 73-74, 1900, hein, et je ne comprenais ni l'un ni l'autre, naturellement. Tu vois, avec les histoires de Roger, etc.,
ouais.
Hein, je ne comprenais pas toujours où Brassens voulait en venir.
Ouais.
Et Neil Young, je ne parlais pas anglais à l'époque, et donc je comprenais que ni à l'un ni à l'autre. Mais par contre, ce qui s'est passé, c'est l'émotion. Je me suis dit, merde, putain, ces mecs-là, ils sont capables, juste avec une guitare et une voix, de m'emmener. C'est ça que je veux faire, en fait. Mais tout arrive en même temps, c'est-à-dire vers 14, 13, 14, 15. Tout ça, ça se mélange, quoi. Grimmel Ray, Brassens, Neil Young, la bicyclette. Tu vois, tout ça, ça arrive. C'est un espèce de flow, quoi, qui est propre à l'adolescence où tu bouffes tout ce qu'il y a à bouffer, où tu te nourris des unes, des uns, et, etc. Tout ça, ça arrive en même temps.
Et à partir de quel moment tu t'es dit, je vais en faire mon job?
Alors, si tu veux, bon, assez vite, j'ai pu avoir constituer un répertoire, et puis après, j'ai joué dans la MJC de mon coin, et là, j'avais 17 ans, à peu près, 16 ans et demi, 17 ans, et j'écrivais, j'avais déjà un répertoire de chansons, et je faisais des premières parties. Mais sans penser à en faire mon métier, malgré une scolarité complètement chaotique, je suis quand même arrivé en terminale par miracle. J'ai raté mon bac et là je me suis dit bon, je me lance, je vais bien voir, je vais avancer sur le chemin de la chanson.
Moi, dans mes notes, j'ai Éric Guiton débute sa carrière en 1983.
Oui, c'est vrai. Oui, mais c'était avant, parce que 83, c'est l'année où je commence un peu à tourner en province, à faire les premières parties, à jouer à Paris dans une salle qui s'appelait La Tanière, qui était un lieu chanson dans le 13e. À me frotter au cabaret, puisque c'était la fin des cabarets, chez Georges, qui ne m'a pas pris d'ailleurs. Il y avait un autre, l'écluse, tout ça, ça avait fermé, mais il restait le bateau ivre. Et bon, alors là, ouais, là j'ai commencé à chanter mes chansons, et puis voilà. Mais ça démarre vraiment en 86, parce que là, je gagne un prix,
L'Oréal.
Et puis je suis programmé au Printemps de Bourges. Enfin, c'est là où, officiellement, où ça démarre vraiment, quoi, je veux dire.
Et voilà. À ce moment-là, tu deviens un globe chanteur, tu te balades à travers le monde.
Ouais, parce que, en fait… C'est pareil, les rencontres pour manger. J'avais été engagé et par intérêt aussi pour dans un spectacle pour les 50 ans du Front populaire Donc ça devait être en 86 et donc je chantais des chansons du répertoire de 36 et j'étais accompagné par Roger Pouly. J'étais avec une tripotée de nanas plus âgées que moi qui m'avaient pris dans leur troupe et donc avec Pouly, on s'entendait bien parce que j'étais quand même je vais dire, j'étais vraiment dilettante, voilà, pour pas dire branleur, parce que il y avait, je prenais un petit peu ça, comment dire, comme un peu pas par-dessus la jambe, en essayant de faire les choses bien, mais enfin. Et Roger Pouly m'a branché sur l'Alliance française, et à partir de là, j'ai commencé. Là, je me suis vraiment promené. Parce que je jouais de l'accordéon aussi, donc il y avait le côté français, accordéoniste, etc. Et je me suis, bon, je me suis beaucoup promené, quoi. Ouais. Grâce à la chanson, ça a été un sésame. Jamais j'aurais pu me payer tous ces voyages, et en plus en étant logé, nourri et rémunéré. Voilà, mais ça s'est fait comme ça, c'est une rencontre.
Et ton premier CD, 91?
Alors, le premier CD, c'est 1991, oui, qui correspond à ma rencontre avec Pierre Barou, qui ne m'a pas produit ce disque-là, mais là, déjà en 91, bon, j'avais de quoi faire un disque, donc j'ai fait un disque.
Pierre Barou était déjà en Vendée? Non.
Bien sûr, Pierre était déjà en Vendée depuis longtemps.
Et c'est pour ça que tu as donné le nom à ton CD, c'était Le Vent des Fous.
Non, Le Vent des Fous, non, ça n'a rien à voir avec la Vendée. C'est un vent qui sévit dans la région de Valence. D'accord. Et dans la Drôme. Voilà, qui est vraiment un vent qui te rend fou, quoi. Ouais. Ça te prend et ça te tourne la tête, donc j'avais gardé cette image-là.
Quelle autre chanson à l'époque, quel autre artiste tu as envie qu'on diffuse pendant cette interview?
Si tu veux, pour illustrer ce qu'on vient de dire, Neil Young, The Needle and the Damaged Down, qui est sur l'album Harvest.
Knocking at my cellar door. I love you, baby. Can I have some more? Ooh, the damage done. I hit the city and I lost my band. I watched the needle take another man. Because I love the man. I know that some of you don't understand. Milk blood to keep from running out. I've seen the needle and the damage done. A little part of it in everyone. But every junkie's like a setting sun.
Vous écoutez bien en ce moment Trafic d'air sur Jet FM 91.2.
on a vu que tu avais commencé à mettre un pied donc dans le professionnalisme
oui.
à travers ces méandres à travers le monde grâce à l'Alliance française. Et puis,
oui.
Tu te lances là aussi dans la chanson avec ton propre CD.
Oui.
Est-ce qu'il y a des thèmes que tu écris, est-ce qu'il y a des thèmes qui te tiennent particulièrement à cœur et que tu explores consciemment ou pas ? Personnellement, j'ai découvert dans ton CD Devine, il ne faut pas déconner, je n'avais pas du tout l'image d'un Éric Guilleton faisant de la protest song.
Eh ben ouais, si tu veux, en fait, il y a eu toute une période où c'était des chansons protest song. Et celle-là, elle en fait partie. Je pensais que à l'époque où je l'ai écrite, je pensais que imaginer qu'on en soit là aujourd'hui. Voilà. Alors, c'est des chansons que je ne chante plus parce que je suis convaincu que la proposition est d'autant plus, non seulement louable, mais surtout porteuse d'avenir que la dénonciation. Quand dans cette chanson-là, faut pas déconner, je dénonce. Bon, ok, quand on dénonce, on se compte sur les doigts de la main, mais je préfère la proposition. Puis, je me suis rendu compte à cette époque que je renie pas tout le courant de la chanson française aussi, comme des gens comme Béranger que j'ai beaucoup aimé.
Mmh.
Ou Roger Siffert, ou Juan Pauverdier, enfin, tous ces gens qui défendaient, non seulement leur culture, mais aussi qui avaient, une parole, qui portaient une parole politique. Moi, je me suis rendu compte, en tout cas, en ce qui me concerne, que c'était pas ma voix et que j'avais pas, que ce que je pense n'avait pas ne comptait que pour moi et que je ne voulais pas faire ni prosélytisme ni prêchi-prêcha. Voilà. Mais c'est pas une chanson que je renie, mais je ne la chante plus.
On les croyait morts, morts et empaillés. Preuve qu'on avait tort de dormir sur nos lauriers. L'apologie de la haine à pignon sur rue. Des disciples par centaines, qui l'eût cru? Face à la peste noire dans la presse, faites le test. Trop de bienséance au nom de la liberté, au nom de la tolérance. Faut pas déconner. Aujourd'hui comme hier, c'est Ali Aelo qui nous revient de l'enfer. C'est la tête haute, regarde, qu'il s'affiche sur nos murs. C'est à qui la faute? L'horreur à la piture. We'll be right back.
années. Tous ceux qui me connaissent fait la tête sous l'oreiller. Il y a comme une odeur de pourriture au fond du cœur de l'homme, c'est sûr.
À partir du moment où tu chantes, ton rôle implique quand même une certaine responsabilité sociale ou politique, non ?
Oui, absolument. Mais en tant que citoyen, pas en tant qu'artiste.
Pas en tant que chanteur.
Non. Ah, je veux dire, bon, attention, j'ai participé à des missions humanitaires, etc. J'ai été chanté en prison, voilà, mais je veux dire, qui suis moi pour dire aux gens voilà, c'est comme ça qu'il faut penser, non. Mes actions m'ont engagé et m'engagent encore.
Alors, en dehors de la musique, je crois savoir que tu as d'autres passions artistiques. Tu as commis un livre avec des dessins du dimanche, non?
Oui, c'est pareil, c'est encore une histoire de rencontre. J'ai toujours dessiné, voilà, puis il y a une quinzaine d'années, j'ai montré mes carnets et tout ça, et puis les gens m'ont dit, mais tu devrais faire une expo, Puis alors franchement, là, je c'est pas que j'en avais rien à faire, mais je pensais sincèrement que ça n'allait intéresser personne. Attendu que, à l'époque où c'est arrivé, ma surface de vente en tant qu'artiste folk de variété dépassait pas 2 centimètres carrés à la FNAC, tu vois. Donc je me suis dit, bon, sincèrement, c'est pas la peine, tout le monde s'en fout. Et puis, c'est pareil, les gens ont insisté, puis j'ai fait une rencontre avec une éditrice dans un festival qui m'a dit, j'ai montré, puis elle m'a dit, mais moi, je t'édite. Bon, j'y croyais pas. Et puis, le lendemain, on a reparlé et elle m'a dit, mais si, je t'édite. Et c'est arrivé comme ça. Donc, en fait, si tu veux, là aussi, ça m'a ramené à des trucs qui sont valables à mon sens, il me semble, hein, encore une fois. C'est-à-dire que la chanson, elle se fait autant dans l'œil de l'écouteur que dans la parole de celle ou celui qui chante. C'est vrai aussi pour la peinture. Je veux dire que le tableau, l'image, elle se fait autant dans le regard du regardant que dans le regard du peintre. Et tu vois, et tout ça, petit à petit, c'est ajusté, c'est encore une fois des coups de rabot.
Ouais.
Pour moi, ça, si tu veux, c'est devenu cohérent. Voilà.
Okay. Donc, et ça s'appelle les dessins du dimanche parce que tu dessines et tu mets sur les réseaux le dimanche.
Oui, c'est ça, ouais, depuis 15 ans. Et donc, ça a fait un bouquin, et puis il y en a eu un autre qui s'appelle « Un coup d'été dans l'eau ». Puis après, il y a eu des expos de peinture à Bruxelles, dans le Marais Poitevin, dans la ville où je suis en résidence d'artiste à Étampes, Paris aussi. Enfin bon, voilà, ça suit son cours.
Ok. Moi, je suis toujours intéressé par le processus d'écriture et de composition de mes interlocuteurs. Mmh. Est-ce que tu peux définir ton processus habituel, ou, si tu en as un ?
Alors, oui, aujourd'hui, je ne dis pas que j'ai un système, mais ce qui est certain, c'est que la contrainte est un moteur pour l'imagination. Ça, c'est certain. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vient une phrase ou un accord, c'est souvent les deux qui viennent en même temps. Et puis, arrive une deuxième phrase, puis une troisième, puis une quatrième. Et si ça commence à tenir sur un plan, si tu veux, de la métrique et de la rime, je commence à regarder le système qui est apparu presque par hasard. Je dis bien presque par hasard. Et à partir de là, je me dis, OK, ça sonne comme ça, c'est conçu comme ça, parce que ça s'emboîte comme ça avec la mélodie. Et là, toute la chanson va se dérouler. Et encore une fois, souvent avec la gomme, c'est-à-dire que j'écris beaucoup plus pour garder finalement que ce que je considère comme étant le plus intéressant, ouais, on va dire.
Et là, en ce qui concerne donc la musique, pour toi, ça vient tout de suite en même temps, quoi.
Ouais, enfin, bon, alors, pour moi, la musique, c'est vertical et l'écriture, c'est horizontal. La musique, elle me vient directement verticale et l'écriture, c'est vraiment un, c'est une autre position. En fait, c'est souvent l'harmonie qui va m'amener la mélodie. Mais une fois que j'ai la mélodie, c'est là où je vais être très exigeant par rapport à la métrique du texte. Et j'aime vraiment travailler sur les accidents, c'est-à-dire casser la métrique quand tu écris en octo, par exemple. Bon, ça va t'amener à avoir nécessairement une mélodie assez linéaire. Mais si tu fais 9-2, par exemple, hein, c'est-à-dire un vers de 9 et puis un autre de 2, ça va créer un accident. Ouais. Et donc, à partir du moment où ça crée l'accident mélodique qui m'intéresse, je vais essayer de tenir la contrainte pour reproduire cet accident qui parfois en provoque un autre en restant au plus près de la contrainte de métrique et de son et de rime. Hein. C'est la note et le mot, quoi.
Et tu as des fois des blocages ou pas?
C'est rare, c'est-à-dire que en général, ce que j'essaye de faire, c'est d'aller au bout de la chanson.
Ouais.
Et après, je la garde ou pas. Même si je suis content quand je l'ai terminée, une semaine après, je la reprends, même pas 2 jours après. Parfois, je me dis, ouais, bon, d'accord, t'as été au bout, mais ça vaut pas le coup d'être gardé. Voilà.
Est-ce qu'on pourrait peut-être envisager d'écouter le troisième titre que tu suggères?
Alors, le troisième titre que je suggère, c'est une chanson de Romain Didier qui s'appelle Julie Laloire. Et je trouve que c'est une très, très belle chanson. Et j'apprécie énormément le travail de Romain Didier. Je trouve que c'est un grand artiste.
Un petit village, c'est 8 heures du soir, un plan très large, la Loire. Assise près d'un pont, une fille en blouson, tout près d'elle un garçon. 15 ans à peine, des yeux grands comme ça, elle dit je t'aime, tout bas. Il lui prend la main, elle sourit, elle est bien, il l'embrasse, elle dit rien. Julie la Loire, petite fille dans un coin de ma mémoire, t'as 15 ans pour la vie, je t'aime encore aujourd'hui, je veux pas savoir si t'as grandi. Julie la Loire, petite fille dans un coin de ma mémoire, je revois comme avant ton sourire en gros plan et tes yeux d'enfant. Rideau tiré, gros plan sur la fille quand elle se déshabille. D'un geste maladroit, il la prend dans ses bras pour la première fois. Une main qui glisse, un regard qui rassure, sourire d'Elvis au mur. Deux corps en vacances qui déchirent en silence les frontières de l'enfance. Julie la Loire, petite fille dans un coin de ma mémoire, t'as 15 ans pour la vie, je t'aime encore aujourd'hui. Je veux pas savoir si t'as grandi. Julie Laloi, petite fille dans un coin de la mémoire. Je revois comme avant ton sourire en gros plan et tes yeux d'enfant. Faut pas que ça se voie. Il regarde ailleurs, le train s'en va. Il pleure. La peine qu'elle a eue, y'a que la Loire qui l'a su. Ils se sont jamais revus. Julie Laloi, petite fille dans un coin de ma mémoire. T'as 15 ans pour la vie, je t'aime encore aujourd'hui. Je veux pas savoir si t'as grandi. Julie Laloi, si t'entends ma chanson quelque part, ce garçon maladroit qui t'aimait, souviens-toi, c'est moi. Julie Laloi, si t'entends ma chanson quelque part, ce garçon maladroit qui t'aimait, souviens-toi, c'est moi. Julie Laloi, si t'entends ma chanson quelque part, ce garçon maladroit qui t'aimait, souviens-toi.
Bla 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 bla.
Vous écoutez bien en ce moment Trafic d'air sur Jet FM 91.2.
Il n'y a pas de chanteur, il n'y a pas d'artiste sans public. Hein. Qu'est-ce que ça représente le public pour toi?
Ça, c'est vachement compliqué parce que c'est bon. D'abord, il y a, si tu veux, la notion de partage est fondamentale. Pour moi, c'est très, très important, cette notion de partage. Et puis, que je chante pour 3 ou 4 personnes ou pour 500, je chante pareil, quoi. Si ouais. Tu veux, c'est, je me dis pas c'est un petit machin ou c'est un grand machin, il y a pas de petite chanson et de grande chanson. En fait, la chanson, c'est la bande originale de nos vies, et ça, c'est vachement important parce que chacun je veux dire, a une chanson qui correspond à des moments de sa vie, et le public il est là à un moment T, et peut-être une chanson va l'accompagner parce que ce jour-là, il ou elle l'aura entendu ou fera référence à une, je sais pas quoi, à un événement marquant de sa vie, etc.
Quelle est la remarque, d'un spectateur par lequel tu as le plus surpris? Parce que au sortir des concerts, tu échanges énormément, je pense, avec. T'es pas le genre à rentrer dans ta loge et à pas ressortir, toi.
Ah si, moi, je ressors tout de suite.
Oui, bien sûr.
Quand c'est des compliments, en général, ce sont des compliments. Je les accueille avec bienveillance. Maintenant, je suis avec l'âge, je suis en mesure de les accueillir et d'être généreux. C'est ce qui veut dire accueillir le compliment. Au début, j'avais un peu de mal avec ça, et j'ai des anecdotes, mais je peux pas les dire comme ça à l'antenne.
Quel est le message principal que tu aimerais que les gens retiennent de ton répertoire?
L'amour et l'amitié.
Ok, c'est joli ça comme conclusion.
Ouais, c'est ça. En fait, j'ai jamais écrit que ça, que des chansons d'amour et d'amitié.
J'ai évoqué tout à l'heure la chanson Faut pas déconner, que nos auditeurs ont entendu. J'ai maintenant aussi une autre chanson que j'aimerais leur faire découvrir s'ils ne la connaissent pas. Ça s'appelle Une ville, un soir. On va se quitter là, Eric. J'étais ravi d'avoir passé un long moment avec toi. Bon, j'espère qu'on t'a pas posé. Enfin, on t'a pas enquiquiné.
Non, pas du tout.
Maintenant, je te connais mieux, ça c'est sûr. Voilà.
N'oublie pas, mon aventure avec Sarava aussi, parce que c'est énorme.
On va pas conclure tout de suite, tu vas tout de suite nous en parler.
Voilà, la rencontre avec Pierre a été vraiment aussi là déterminante. J'avais 30 ans, 29, 30 ans, et ça a été, une rencontre capitale dans ma vie. Qui a débouché sur 30 ans d'amitié et de faire partie de cette aventure de Sarava qui est une belle utopie, ouais. Qui existe encore, puisque cette année, Sarava va fêter ses 60 ans. Voilà, même si Pierre est parti pour l'autre rive. Voilà.
Et au concert, le 3, quand tu viens à Nantes, oui. Il y a une première partie qui est consacrée justement à un hommage à Pierre Barou, des artistes amateurs locaux.
Oui, mais ça, c'est super, c'est une super idée, d'autant que je vais chanter... je pense deux ou trois chansons que j'ai écrites avec Pierre. Ouais. Donc il y a un vrai lien là. Ouais. Et ça va être super. Ça veut dire que Pierre est là, quoi. Donc, et ça, c'est vachement important.
Si tu as un message à passer aux auditeurs pour qu'ils viennent te voir, c'est quoi?
Au plaisir de croiser vos regards.
Bien. Eric, écoute, je te remercie du temps que tu as consacré à cette interview et au plaisir de te rencontrer.
Oui, moi aussi au plaisir, hein. Vraiment au plaisir.
Voilà, ainsi s'achève cette conversation téléphonique entre l'ami Robert et Eric Guiton, dont vous aurez compris que vous pourrez aller l'applaudir à l'autre scène. Renseignez-vous sur le lieu exact que je ne connais pas, mais... Il y a un email, une autre scène, tout attaché, @gmail.com. C'est Evelyne Lann et Roland Atlani qui sont les maîtres d'œuvre de ce projet. Et vous y rencontrerez donc le 3 octobre Eric Guiton, qui sera content de rencontrer vos regards, semble-t-il. Mais avant de se quitter, il faut quand même qu'on écoute cette dernière chanson évoquée et puis escamotée. Alors elle reparaît, donc Une ville la nuit, cette chanson qui compte aux yeux de Robert, semble-t-il.
Un quai, une gare, une ville, un soir. Étranger au revers de l'hiver, je voyage léger aujourd'hui comme hier. J'ai du vent dans les voiles et je m'attends ailleurs. Dans le ciel, les étoiles rêvent d'un monde meilleur. Un quai, une gare. Ville un soir, je viens vous voir à voix guitare. Une chanson qui s'entête, quelques mots oubliés dans un coin de ma tête, quelques notes alliées se bousculent et chavirent dans la nuit des offenses. Quand douter n'est pas dire vraiment ce que l'on pense. Un quai, une gare, une ville, un soir. Je viens vous voir à voix guitare. Je suis de nulle part entre l'aube et l'aurore. Je file d'art et d'art toujours vers un encore qui m'échappe et je crains qu'au bout d'une cigarette tout s'arrête au refrain d'une dernière fête. Un quai, une gare, une ville, un soir. Je viens vous voir à voix guitare. Et si c'était la vie qui me voulait trop tard, je m'étonne aujourd'hui de n'être qu'en retard sur ma guitare.
ma voix s'égare, j'avais rancard ici ce soir. Bonsoir.
Eh bien voilà, alors autant pour moi, je me suis trompé dans le titre de la chanson, c'est pas Une ville la nuit, mais Une ville un soir, qui n'a rien à voir. Tant pis pour moi. Je remercie évidemment Robert d'avoir pris le temps de faire cet entretien avec Eric Guilton. Et peut-être qu'on le retrouvera au cours de la saison avec d'autres artistes. Je crois qu'il a des projets qui seront accueillis par l'émission évidemment. Je vous propose, vous, auditeurices de Trafic d'air, de nous retrouver dès samedi prochain. Je ne sais pas encore de quoi sera faite cette émission, puisque j'ai plusieurs projets qui se disputent, mais il y en aura au moins une qui sera sur les ondes, et donc ce sera le 4 octobre, le lendemain du concert des Guilton, auquel vous serez allé assister peut-être. Allez, je vous souhaite un bon week-end, et puis à la semaine prochaine.
Pends-toi ma langue et fais tout ça. Pends, pends, pends-toi ma langue.